Egunon Deneri, bonjour à toutes et à tous, c'est à Ongietori dans ce nouveau podcast du groupe citoyen Elgarrekin. L'association Elgarrekin se dirige tout droit vers les prochaines élections municipales puisqu'elle a décidé de soutenir et de composer autour de la majorité municipale actuelle une liste qui est menée par l'actuel maire du Rhône, Philippe Aramendi. Et justement, l'objectif de ce podcast, c'est de vous faire découvrir, à vous les Ourougnards, de vous faire connaître les membres de ce groupe. Et je vous propose de rencontrer aujourd'hui l'une des chevilles ouvrières du groupe, Gilles Morando. Gilles, Egunon.
Egunon.
Alors Gilles, tu es né à Saint-Pierre-d'Oléron, une île emblématique. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à Urugne?
Qu'est-ce qui m'a amené jusqu'à Urugne? Donc je suis né à Saint-Pierre-d'Oléron, dans l'île d'Oléron. J'ai toujours voulu, disons à partir de 16-17 ans, j'ai toujours voulu vivre au Pays Basque. Parce que moi, j'ai considéré que l'île d'Oléron, qui avait une très forte identité quand j'étais gamin, perdait peu à peu son identité. Une culture maritime, tournée autour des huîtres, autour de la mer. Et peu à peu, cette culture s'est fait dévorer par une culture touristique, un peu envahissante, et qui a dénaturé l'endroit.
D'accord. Et tu as réussi ici à retrouver... Voilà. Peut-être ce que tu avais perdu là-bas?
En partie, oui, bien entendu. Après, ce que je regrette, c'est que j'aurais dû, contrairement à ce qu'avait fait ma compagne, apprendre le basque. Mais je n'avais pas le temps. Ça nécessitait un investissement important, à vrai dire. Et donc, du coup, j'ai quand même réussi, malgré ça, à m'y retrouver. Mmh. Et à retrouver une authenticité que j'avais perdue.
D'accord. Et alors, après tes études à Sainte, puis à Rouen, tu as passé plus de 30 ans à l'IFREMER. Donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est un établissement public qui a pour but de sensibiliser le grand public aux enjeux maritimes. En tant qu'assistant technique et scientifique, tu y as travaillé de 1989 à 2022, c'est bien ça?
C'est ça, oui. Exactement.
Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce travail au service de la mer et donc de la recherche?
Qu'est-ce qui m'a le plus... Déjà, c'était le milieu. Alors, contrairement à Rouen, j'ai fait un BTS, technique agricole, gestion de l'entreprise. Donc, j'avais en arrière-plan l'idée de m'installer en agriculture. Puis très vite, j'y ai renoncé. Mais en plus, ma propre culture est maritime. Mon père était marin. Et... J'ai eu l'opportunité de passer l'entretien pour être embauché à IFREMER, donc Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et il y avait un poste au Pays Basque. Et là, je faisais coup double. J'allais travailler au Pays Basque, une zone qui m'attirait, dans un milieu que j'aimais bien. Donc je suis arrivé ici en 89 et j'ai travaillé à IFREMER dans un département qui s'appelle département ressources halieutiques. Et j'ai fait partie de ces gens qui ont pensé et mis en œuvre ce qu'on appelle le système d'information halieutique, qui est l'équivalent du SIG que tout le monde connaît, les systèmes d'information géographique.
D'accord.
Donc j'ai mis ça en place ici, à La Réunion, en Guyane. L'essentiel de mon travail a porté donc sur la mise en œuvre de ce système d'information halieutique. Donc ça passait par des campagnes scientifiques pour évaluer les populations de poissons. Mmh. Des embarquements avec les pêcheurs à Saint-Jean-de-Luz, par exemple, ou à Cap-Breton. Ça passait aussi par des enquêtes économiques auprès des pêcheurs. De la mesure du poisson en criée, par exemple, pour savoir exactement quelles étaient les classes d'âge de poissons qui étaient pêchés. Voilà en gros quel a été mon travail. Après, j'ai travaillé aussi sur la pollution avec l'université de Bayonne. La pollution et les impacts de la pollution sur les populations. Voilà.
D'accord.
En gros, je résume.
Oui, bien sûr. J'imagine que c'est un grand résumé. Mais on voit donc que tu as eu un lien avec le monde maritime dans ton travail, mais aussi avec le monde agricole et paysan, puisque avant cela, tu as vécu une expérience très forte et très originale, puisque tu as travaillé 2 ans au Rwanda, de 82 à 84, si je ne me trompe pas,
exact,
auprès de paysans. Cette immersion, cette expérience aussi, en quoi elle t'a transformé humainement, professionnellement? Tu étais jeune à l'époque.
Exactement, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Je me revois encore partir au Rwanda. Alors, quelles sont les raisons qui m'amènent à partir au Rwanda ? À mon époque, le service militaire est obligatoire. Soit on faisait le service militaire, soit on faisait la coopération. Et en fait, moi, j'ai choisi la coopération. Et donc, j'ai été recruté par une association qui s'appelle l'Association française des volontaires du progrès, qui est une, on va dire, une boutique, ou comment dire, une annexe du ministère de la coopération. Et je suis parti au Rwanda dans le cadre de ce service militaire civil. Mon travail consistait... Alors, j'étais en relation avec le Centre international de la pomme de terre, qui est situé au Pérou, à Lima. Il faut savoir que le berceau d'origine de la pomme de terre, c'est le Pérou. Et donc, au Rwanda, les pommes de terre poussent très bien, et il y avait tout un programme de sélection et de diffusion de variétés de pommes de terre adaptées au Rwanda. Donc je suis parti au Rwanda là-bas, j'étais au nord du Rwanda, sur la frontière ougandaise, à côté du parc des volcans, là où il y a les gorilles de montagne, bien connues, avec le film, le film sur Gorilles dans la brume, oui. C'est ça je crois. Il se trouve que moi j'ai croisé Diane Fossé, la primatologue, qui n'était pas une femme facile, pour dire les choses clairement. Donc c'est un endroit magnifique. Voilà en gros, et donc moi je travaillais avec des coopératives de paysans, donc sur cette commune à Boutaro. La commune s'appelait Boutaro. En gros, il y avait 5 blancs sur la commune, une commune de 30 000 habitants. Il y avait 3 pères blancs et 2 infirmières canadiennes, des nonnes aussi. Voilà, en gros, pour résumer
Alors, sans transition, je te propose de passer à un autre petit jeu, c'est-à-dire le plutôt ça ou plutôt ça. Le principe est très simple, je te donne 2 propositions, tu dois en choisir qu'une seule. Tu peux évidemment te justifier assez rapidement, d'accord ? Choisir, c'est renoncer, tu le sais bien. Alors, c'est parti, on commence gentiment. Je pense connaître la réponse, plutôt océan ou montagne ?
Les deux.
Ah, tu hésites, d'accord.
Les deux.
Les deux, et si tu devais choisir un lieu donc en lien avec l'océan ou la montagne sur Urugne, quel lieu tu choisirais ? Joker ?
Joker, oui, on pourrait dire Joker, parce que Urugne a les deux, à la montagne et l'océan.
D'accord. Plutôt un roman ou un essai à proposer ?
À les deux.
Ok.
À proposer, alors un roman à proposer, qu'est-ce que je pourrais te proposer ? Un roman que je... Un roman, c'est plutôt un témoignage que je viens de lire, écrit par Fay, Petit Pays,
oui.
Justement, qui se situe au Burundi au moment du génocide. Burundi, juste à côté du Rwanda. Et un essai, je dirais, Démocratie manifeste de Barbara Stiegler.
Très bien. Passons au sport. Plutôt rugby ou hand ?
Allez, je dirais... plutôt rugby, parce que moi j'ai pratiqué le rugby pendant longtemps. Et avec. Quand j'étais jeune, moi j'ai joué dans plusieurs clubs, mais quand j'ai commencé le rugby, je jouais dans le club de l'île d'Oléron. Et le club modèle, d'un point de vue rugbyistique, pour moi c'était l'Aviron Bayonnais. C'était l'époque de Pardo, de Pétrissant, par exemple. Mon club de cœur, c'était le Stade Rochelet.
Voilà. Et aujourd'hui, ça l'est toujours ?
Alors, aujourd'hui, c'est toujours mon club de cœur, le Stade Rochelet. Et je suis moins adepte du rugby pratiqué l'Aviron. Par contre, très fan du rugby pratiqué par Toulouse.
Ok. Les fans apprécieront.
Oui, bien entendu.
Passons à l'art. Oui. On sait aussi que tu aimes l'art. Tu serais plutôt peinture ou plutôt musique violon ?
Voilà, à chaque fois tu me pièges parce que pour moi c'est deux passions. C'est deux passions. Alors musique, bien entendu, ma préférence musicale va plutôt musique classique, avec le régional de l'étape par exemple, Ravel, bien entendu. Oui. Chez Ravel, on peut citer par exemple le tombeau de Couperin, dont deux des... C'est une pièce qui est composée en six parties, dont deux pièces sont dédiées à deux Basques de Saint-Jean-de-Luz, morts en 1916, pendant la guerre, la Grande Guerre, de Luc, qui était peintre, élève de Bonnat, et puis Gaudin. Voilà.
Super. Passons à l'activité physique, personnelle. Tu serais plutôt une randonnée en solo ou entre potes ?
Eh bien, pendant longtemps, moi, j'ai randonné seul. Tu vois, je suis parti de Banyuls, ouais. Pyrénées-Orientales. Ouais. Et je suis arrivé, en 37 jours, je suis arrivé par la haute route des Pyrénées. Je suis arrivé à Urugne.
T'as traversé les Pyrénées.
Et quand je croisais des gens, c'est marrant parce qu'au cours de ma randonnée solitaire, mais qui n'était pas si solitaire que ça, j'ai rencontré une urugnarde qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Je rentre chez moi. » Et ça l'a fait sourire. Et j'ai adoré randonner seul. Maintenant, je préfère randonner avec des copains.
Et concernant tes soirées, aujourd'hui, le jour, tu préfères un repas convivial en groupe ou plutôt sortir et profiter d'une soirée culturelle, plus calme, on va dire.
Repas convivial.
Ok. Merci beaucoup pour tes réponses, Gilles. Alors, on va passer maintenant à ton engagement sur Urugne, ton investissement associatif, etc. Alors, tu es membre d'Adishkideak. Donc, c'est une association qui joue un rôle important à Urugne. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'elle apporte à la commune ?
Alors, à Urugne, il y a beaucoup d'associations. Et l'amicale laïque Adishkideak, est une très vieille association. Dès que je suis arrivé, j'ai rejoint Adishkideak. Il y a eu une période où j'étais membre du conseil d'administration, on va dire. Mes enfants ont été à l'amicale, mes trois garçons ont été à l'amicale. J'y suis encore, mais en tant que joueur de violon. Donc toutes les semaines, je vais jouer du violon avec Madi. Et ce qu'elle apporte à la commune d'Urugne, c'est de la cohésion. C'est l'opportunité pour des jeunes ou des moins jeunes de découvrir des univers artistiques. Le dessin, la peinture, la danse, le piano, le violon, l'accordéon. Enfin, Et pour les anciens, il y a des organisations de voyages. Bon, c'est pas trop mon truc, mais la partie culturelle.
Une seconde association où tu es impliqué également et qui manque pas de cohésion, c'est Eli Kartashuna. C'est une initiative qui touche à l'alimentation solidaire, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
En quoi consiste ton engagement là-bas ? Pourquoi est-ce si important pour toi ?
Alors c'est important parce que l'alimentation saine et de qualité, c'est un droit et un besoin pour tous. Or, on sait bien qu'il y a une partie de la population française, et elle est de plus en plus importante, qui est stigmatisée et précarisée vis-à-vis de l'alimentation. Et on est aujourd'hui à peu près une petite trentaine, pas que des urugnards, mais un certain nombre d'urugnards, à réfléchir à l'idée de créer une sécurité sociale de l'alimentation, sur les principes de la sécurité sociale santé. Quels sont les principes, on peut les rappeler, l'universalité des droits, la cotisation au prorata des revenus et le conventionnement. Donc si on déroule ça pour l'agriculture, la production agricole et l'alimentation, l'universalité des droits, c'est que si on est similaire en besoin, alors on est similaire en droit.
Au-delà de cette réflexion, Eli Kartashuna, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose à Urugne ?
Alors, ça fait 3 ans qu'on réfléchit à ça.
D'accord.
On a déposé les statuts de l'association, on a adopté un règlement, on a adopté des barèmes de cotisation. On est dans le processus aujourd'hui de conventionnement avec des paysans d'Urugne et au-delà, parce qu'on réfléchit à l'échelle d'un réseau de producteurs conventionnés. C'est-à-dire qu'on veut dupliquer notre modèle à l'ensemble du Pays basque. On pense à Urugne, bien entendu, créer ça à Urugne, mais au-delà. Et donc, on a déjà rencontré des paysans, mais comme c'est un processus long et en construction, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on apporte concrètement.
Tout à fait.
Voilà. Mais l'objectif, c'est bien
très
ça.
Bien. Alors aujourd'hui, tu t'es engagé dans la liste Elgarekin, donc une liste citoyenne qui est conduite par Philippe Aramendi, l'actuel maire, qui est conduite aux prochaines élections municipales. Et si cette liste remporte ces élections, tu seras adjoint à la vie démocratique et à la participation citoyenne. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce rôle ?
Alors déjà, qu'est-ce qui m'a motivé à rejoindre la liste conduite par Philippe Aramendi ? C'est d'abord le personnage de Philippe Aramendi. Moi, je tiens à le souligner parce que moi, je le perçois comme une personne très, très humble et humaniste. Ça, c'est, pour moi, ce sont des critères importants. Et puis, pas depuis le début, mais depuis 4 ans maintenant, je suis très investi dans les travaux qui sont menés par l'actuelle majorité, notamment dans le budget participatif, dans la réflexion autour de la ferme maraîchère et de la cuisine municipale. J'ai fait partie de ce groupe de citoyens qui a contribué à la réflexion. Et donc, du coup, je me suis dit, partant de ça, bah, maintenant, il faut que tu te présentes avec Philippe Aramendi et l'ensemble de ses colistiers. On va construire ensemble, sur la base d'un bilan, un nouveau programme pour aller au-delà de ce qui avait été réalisé jusqu'à présent.
Donc, on pourrait dire que tu es un bel exemple de participation, justement, dans la vie de la cité du Rugne. Et à ton avis, quels seraient les leviers pour renforcer cette participation de la part de la population ?
Ah, ça, c'est une vraie question, hein, d'autant que, comme tu l'as souligné dans ta précédente question, c'est pourquoi tu acceptes l'idée qu'il puisse y avoir un adjoint à la démocratie et à la participation citoyenne. Ça rejoint, moi, ma réflexion globale. Je pense qu'on est tous légitimes, tous et toutes légitimes, à s'investir. C'est une liberté, c'est un droit, et c'est quelque part aussi un devoir. On doit être aussi dans l'idée qu'on peut construire ensemble et on est plus créatif ensemble que seul et on est plus constructif dans la création plutôt que dans la critique.
Mmh. Alors pour préparer cet entretien, tu m'as cité le discours de la servitude volontaire de la Boétie et tu dis que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Pourquoi ce texte te parle-t-il autant, pardon ?
Mais du coup, ça fait écho à ce que je venais de dire précédemment. Étienne de la Boétie, il faut savoir qu'il écrit ce texte dans les années 1530-1540. Il avait entre 16 et 18 ans. Les historiens ne sont pas complètement d'accord. C'était un copain, un ami à Montaigne, auteur des Essais. On est en pleine guerre de religion, juste après François Ier, Henri II. Et il écrit un texte et il réfléchit sur la liberté et la tyrannie. Et il s'interroge, alors qu'on est libre, comment on peut accepter la tyrannie d'un sur des centaines ? Et je résume à grands traits, hein, mais ce qu'il dit, c'est que alors qu'on est libre, on renonce à notre liberté et les tyrans ne sont tyrans que parce que les gens renoncent à leur liberté. Les seigneurs ne sont seigneurs que parce que les gens acceptent la vassalité et donc renoncent à leur liberté. Il s'interroge aussi sur l'égalité, bien entendu, qui lui, il considère qu'elle est naturelle. Et donc ce texte traverse les siècles. Et ce texte est toujours d'actualité. Il suffit de voir les questions de vassalité par rapport à Trump. Mmh. Les renoncements sur le droit international qui s'opèrent sous nos yeux, c'est la vassalité de nos gouvernants par rapport à Trump, l'empereur du monde qui veut imposer son droit. Et donc, ça rejoint ce que je disais précédemment sur l'engagement démocratique. Chacun est libre. Alors, la liberté, bien entendu, est encadrée par la loi, etc. La loi, on peut la changer. Elle n'est pas absolue dans l'absolu, on est bien d'accord. Mais si on renonce à la liberté naturelle, on renonce à construire sa propre destinée.
Eh bien, écoute, Gilles Milechker-Hainitz, pour cet échange, on va rester sur ces derniers mots. Milechker.
Milechker à toi aussi. Hein.
On se retrouve très vite pour découvrir d'autres membres de la liste Elgarekin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site elgarekin2026.eus. Mille esker deneri, merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine rencontre.